la revue par les 5e B.
Quand la critique
devient un art. Bonjour, vous êtes sur la revue par les 5e B. Je vous parle depuis le Safran où nous avons installé notre plateau. Nous en profitons d'ailleurs pour remercier chaleureusement la structure culturelle de leur accueil. Les élèves du collège César Franck ont participé à un projet intitulé « Jeunes critiques d'art ». Pendant plusieurs semaines, ils sont allés à la rencontre d'artistes et de professionnels du territoire afin de les interroger sur la création artistique. J'accueille Sarah Bernat, enseignante de français au collège. Bonjour, expliquez-nous le projet plus en détail s'il vous plaît.
Bonjour, alors le projet Jeunes critiques d'art a permis à des élèves de 5e du collège César Franck de découvrir la critique artistique à travers le parcours d'art contemporain proposé pendant plusieurs mois dans les rues et les structures culturelles d'Amiens. Donc les élèves sont allés à la rencontre d'œuvres artistiques, mais surtout des artistes qui les ont réalisées. Et ils ont ainsi pu réaliser une série d'interviews de ces artistes qui ont donc permis aux élèves à la fois de développer leur capacité, rédactionnelle, mais aussi de réflexion, puisqu'ils ont dû réfléchir autour des œuvres qu'ils ont rencontrées, et pour ensuite proposer les différentes questions dans le cadre des interviews qu'ils ont réalisées.
Merci beaucoup pour votre explication détaillée. Sans plus attendre, accueillons Ryan et Elia qui ont interviewé Stéphanie Lacombe. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire qui est Stéphanie Lacombe ?
Bonjour, Stéphanie Lacombe est une photographe que nous avons rencontrée à la Maison de la Culture d'Amiens. Lors de la conférence sur la résidence d'artistes, nous avons découvert qu'elle a mené un projet photographique avec des lycéennes en internat.
Qu'avez-vous retenu de cette rencontre ?
Ce fut une rencontre enrichissante. Nous lui avons posé des questions sur ses créations photographiques, sa manière de travailler avec les élèves et comment lui est venue l'idée de photographier des lycéennes dans leur quotidien. C'est intimidant de rencontrer directement l'artiste. Son projet photographique a mis en valeur les lycéens dans leur quotidien. Je vous laisse découvrir notre reportage.
Bonjour, vous êtes Stéphanie Lacombe, une photographe parisienne. Vous êtes diplômée de l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Vous avez travaillé sur différents sujets, notamment lycéen Teki, à la Maison de la Culture d'Amiens. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail en quoi consiste ce projet ?
Bonjour, alors lycéen Teki s'est inscrit à la cité scolaire de Manessier à Flixcourt. L'idée du projet était, dans le cadre d'une résidence, de porter un regard en tant que photographe sur les lycéens et pour le coup et les collégiens de cet établissement, puisque c'est une cité scolaire, il y a et le collège et le lycée. Et il se trouve qu'un internat de filles est à l'intérieur de l'établissement et j'ai décidé de travailler avec les filles de l'internat.
D'accord.
Sur le thème du fait qu'elles passent la semaine à dormir à l'école en fait.
Ok, donc en quoi ce projet vous a-t-il intéressé ?
Il m'a intéressée parce qu'il s'inscrit aussi dans ma démarche personnelle où je photographie donc les gens chez eux, dans leur habitude du quotidien, les gestes répétitifs de chaque jour, anodins, manger. Tu as dû voir, j'imagine, si tu as regardé mon travail, les Français à table.
Oui.
Et donc la façon dont on rentre à l'internat, quand on est loin de ses parents, loin de ses frères et sœurs, comment ça se passe ? Et c'était un peu ce que j'avais envie de voir et de montrer également. La manière dont ces jeunes filles se retrouvent, comment elles s'occupent, qu'est-ce qu'elles font de leur soirée, comment elles restent en lien avec leurs parents qui sont chez eux, du coup. Comment elles remplissent ce temps, parce que les soirées sont parfois assez longues. Le téléphone est confisqué, elles n'ont pas le droit d'avoir leur téléphone après 19h, si mon souvenir est bon. Donc voilà, c'était un peu la vie de ces jeunes filles en internat qui m'intéressait.
D'accord. Donc, Donc lors de la réalisation de votre projet, comment avez-vous réagi face au vécu et au ressenti de certains élèves ?
Alors, les élèves n'ont pas toujours envie d'être photographiés, ce qui est naturel, puisqu'on est quand même après l'école. Donc, elles sont plutôt, vous l'avez vu sur les photos, en chaussons, en pyjama, pieds nus. Donc, je suis quand même dans un instant intime hein, de leur vie, quoi. Oui. Donc, c'est une approche hein, que l'on fait avec elles. Pour savoir un peu qui est d'accord de participer à ce projet. Ta question, c'était quoi exactement ?
Donc, comment avez-vous réagi face au ressenti de certains élèves ?
Ah oui, en fait, ma réaction, elle est comme d'ordinaire quand on va photographier des gens, c'est-à-dire qu'on est dans un échange et on propose de les photographier, de participer à une œuvre, de travailler ensemble sur une thématique. Et si elles me donnent leur accord, eh bien, j'ai la voie ouverte pour pouvoir les photographier sans trop me soucier déjà de leur accord et de ce qu'elles donnent à voir, en fait.
D'accord. Et donc, justement, quand ils n'étaient pas d'accord, en général, c'était quoi la raison ?
Alors, les raisons, elles sont diverses. Quelquefois, ça peut être une raison... ça peut être des raisons... parental, parce que ce sont des mineurs, donc il est possible que les parents aient dit non, de ne pas être photographiés. D'autres fois, c'est un problème vis-à-vis de leur propre image, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas du tout envie de se voir et elles n'ont pas envie qu'on les voit non plus. Parfois, c'est la timidité aussi face à l'appareil photo et face à la présence d'un photographe. C'est pas toujours évident de se sentir visée. Et puis, moi, je suis là assez longtemps, donc je suis totalement présente dans leur soirée, en fait, et même au réveil, je suis là. Donc, elles se couchent, je finis la soirée avec elles, et le matin, au réveil, je suis encore là. Donc, ça sous-entend quand même d'accepter, quoi, de participer au projet, si on est photographié, évidemment, quoi. Je ne fais pas à leur insu.
D'accord. Donc, combien de temps a duré votre résidence artistique ?
Alors, moi, pour ma part, elle s'est faite sur 2 ans. Il y a eu la première année où il y a eu ces fameux ateliers thématiques autour de la photographie. Donc là, avec 2 classes. Donc, ça n'a rien à voir avec l'internat. On a vraiment fait des ateliers, on a fait des photographies avec les élèves. Donc, les auteurs, c'était les élèves, auteurs de leur propre photographie. Il y a eu 2 ateliers, chacun de 25 heures. Ensuite, il y a eu le temps passé dans l'établissement pour aussi définir le projet sur lequel j'avais envie de travailler. Mm-hmm. Bon, assez rapidement, j'ai pressenti que j'avais envie de travailler sur l'internat. Il y a eu aussi tout le temps de préparation de l'exposition, puisqu'il y a eu 2 expositions. La première pour présenter l'artiste qui va être en résidence de création. Donc là, c'est plutôt une exposition. Et je disais tout à l'heure, il y avait 3 expositions dans un grand lieu, grand comme la salle d'exposition à côté. Donc il fallait faire la scénographie, faire la sélection des images. Il y a tout un travail de préparation. Et ensuite, il y a l'accrochage des images, puis l'événement qui est le fameux vernissage. Et ensuite, il y a un dernier temps qui est le finissage, où là, on va exposer du coup les photographies réalisées par les élèves au moment des ateliers photographiques, ainsi que le travail... Ah oui, ça, c'était la 2e année. Nos travaux, en fait, à Cédric et moi, qui ont été montrés en même temps que ceux des élèves. Donc ça, c'était la 1re année. Et en ce qui me concerne, il y a eu une 2e année où là, j'avais déjà un pied sur le territoire à Flixcourt. Et par le biais de Diaphane, qui est quand même la structure, qui est un centre d'art et qui est la structure qui nous a permis à nous, artistes, et à l'établissement d'avoir ce dispositif mis en place, une autre résidence qui consistait à travailler au-delà même du lycée, mais de faire un travail sur la ville de Flixcourt en tant qu'auteur, en tant qu'auteur photographe. Donc là, ça n'avait plus rien à voir avec le lycée, mais le lycée m'a permis d'avoir contact avec des gens que j'avais rencontrés du coup l'année que j'ai passée dans le lycée.
D'accord. Quel message avez-vous souhaité faire passer à travers ce projet ?
Alors, le projet de l'internat ?
Oui.
Moi, j'étais frappée, je pense que c'est quand même assez fort sur les photos, par l'état du bâtiment. Mm-hmm. Pour y avoir dormi, j'avais l'impression que je partageais la même chambre que les filles, qu'elles prenaient la douche sur moi quand elles se douchaient le matin. Enfin bon, voilà, c'est un bâtiment qui méritait vraiment d'être refait. Et je trouve qu'il a même tardé à être... c'est très long, hein, de trouver les financements pour refaire un internat. Mais c'est vrai que ça m'a frappée. Parce que c'est tout un ensemble en vrai, donc il y a l'internat qui se trouve dans cet établissement qui n'est pas non plus d'une fraîcheur absolue, et puis il y a cette cité scolaire avec des sections qui sont que des sections professionnelles, donc à partir de la seconde il n'y a que des CAP et des BEP, il n'y a que des formations professionnelles, à savoir que en fait les élèves qui habitent à Flixcourt, ils n'ont pas d'autre solution que de venir faire un CAP ou un BEP dans le seul établissement scolaire qu'il y a dans la ville. Autrement, s'ils veulent faire des études classiques, un cursus général, il faut qu'ils prennent le bus, et ils ont 30 minutes de bus le matin pour aller faire des études soit à Beuville, soit à Amiens. Et ça veut dire prendre le bus de porte à porte, c'est probablement même une heure de trajet. Donc imagine, une heure de trajet le matin, une heure de trajet le soir pour faire des études supérieures, il y a beaucoup d'élèves qui se découragent. Mmh. Et au moment où j'ai fait ma résidence, ils ont créé l'année suivante une section de seconde générale, et ils l'ont refermée aussitôt, c'est-à-dire qu'elle a duré une année, donc il y a eu un an d'espoir, où les jeunes de la région pouvaient espérer faire d'autres métiers que travailler dans le sanitaire et social, dans la mécanique ou la cuisine. Et en fait, ce rêve s'est éclipsé en une année. La fermeture de cette seconde générale a été prononcée très, très rapidement, quoi. Il y a eu un an d'expérience et ça a été fermé.
D'accord. Selon vous, qu'est-ce que vous avez pu apporter à ces élèves ?
Alors, toujours les élèves de l'internat ou également les ateliers photographiques ? Parce que c'est vraiment deux choses bien distinctes. Je n'ai pas travaillé avec les mêmes élèves.
Ah d'accord, en général, les deux.
Ta question, c'est ?
Selon vous, oui. Qu'est-ce que vous avez pu apporter à ces élèves ?
Alors, je pense qu'ils ont découvert avant tout le métier de photographe. Je pense pas qu'ils connaissent forcément très bien ce métier-là. Hein. Ils connaissent le photographe qui vient faire le portrait de l'école, de chaque classe, chaque année, depuis toujours. Donc on présente son travail à travers la présentation, je le disais tout à l'heure, dans l'exposition des ateliers mécaniques. On parle aussi des séries, de la manière dont les travaux sont menés, les travaux qu'on présente, la manière dont on travaille et on monte des projets. C'est une rencontre et il y a beaucoup d'échanges. Et je dirais que c'est la possibilité en fait aussi de, en tout cas on leur donne les clés de pouvoir créer finalement, que tout est possible. Dans la photographie, tout est possible. Je pense que, au moins, je ne sais pas ce que j'ai apporté. En fait, en vrai, c'est à eux qu'il faudrait poser la question, aux élèves. Mais je dirais qu'ils ont une ouverture sur la création.
D'accord. Comment avez-vous trouvé l'inspiration pour faire ces photos ? Et les élèves vous ont-ils aidé à trouver un peu les emplacements, etc. ?
Alors, je disais tout à l'heure dans la salle que j'aime bien me faire oublier. Et j'aime bien être témoin, en fait. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de raconter la vraie vie des gens, mm-hmm. sans mise en scène. Donc, on est vraiment sur deux approches très différentes avec Cédric. Et l'idée, vraiment, c'était de me faire oublier pour pouvoir observer quelles sont leurs occupations et surtout qu'elles ne soient pas dans la représentation parce qu'il y avait la présence d'un photographe auprès d'elles. Donc voilà, moi je voulais raconter leur quotidien, tout simplement en fait.
D'accord. Alors, trouvez-vous que vous avez eu assez de temps pour mener à bien ce projet ? 2 ans.
Moi je suis assez gourmande, donc je m'arrêterai jamais. Et finalement la résidence, elle a ce point positif, c'est qu'elle s'inscrit aussi dans une capsule de temps, et donc il y a une fin. Et la fin, c'est pas moi qui la dessine, c'est aussi le temps de la fin de résidence en fait, donc c'est pas mal. elle s'arrête quand le temps nous permet plus de venir. Enfin, je veux dire par là, quand la fin de résidence est prononcée parce qu'il y a tant d'heures ou après ça se négocie. Je pense que si j'avais souhaité de venir encore 10 jours, j'aurais pu le faire. Mais c'est bien aussi quand les choses s'arrêtent.
D'accord. Bah, que retenez-vous de cette expérience ?
C'était une très belle résidence, j'ai envie de dire très complète, puisqu'il y a eu trois axes pour moi de travail. Le premier avec les ateliers, le second une création au sein de l'établissement et le troisième une création au sein du territoire. Donc c'est une résidence de rêve dans un territoire qui n'est pas un territoire de rêve, mais j'ai rencontré des gens incroyables comme la plupart des enseignants, mais aussi je travaillais avec le CDI, les gens qui travaillent au CDI, avec les archives. On rencontre en fait énormément de gens, quoi. Même Nathalie Prost, qui est la directrice, le proviseur de l'établissement, qui a pris la parole tout à l'heure. En fait, on échange avec beaucoup de personnes au courant d'une résidence, donc on apprend énormément de choses, quoi. C'est très riche à tout point de vue, en fait, aussi bien sur la relation avec les élèves qu'avec les adultes, et puis soi-même aussi se remettre en question en permanence sur la manière dont on aborde un travail.
D'accord. Donc aimeriez-vous refaire ce type de projet et pourquoi ?
Ah, moi je rêverais toute ma vie de faire que ça. Bah oui, parce que c'est riche, quoi. Mon travail à moi, il consiste en tant que photographe auteur de documentaires d'aller sur le terrain. Donc là, je suis invitée à aller sur le terrain. J'habite pas à Flixcourt, mais je vais y passer 2 ans de ma vie. Bah, bien sûr, je rentre un peu chez moi entre temps. Hein. Ça se fait par. On y va passer une semaine, on rentre chez soi, puis le mois prochain, on revient encore 15 jours. Bon, tout ça, ça s'étale dans le temps, mais c'est le bonheur pour un photographe d'avoir des propositions de résidence. Hein. Franchement, je crois qu'on en rêve tous. C'est ce qui nous fait vivre aussi. Et puis, c'est vraiment aussi l'engagement, a priori, de finir un travail qu'on démarre, puisqu'il y a une demande. Donc, on se doit aussi de terminer ce travail-là. Mm-hmm. Quand on travaille seul, on peut démarrer, puis on laisse en suspens nos travaux, et parfois, on les finit même jamais. Et dans le cadre de la résidence, il y a un peu ce contrat moral qui fait qu'à la fin, on va livrer quand même quelque chose.
D'accord. Et en fait, par rapport à votre rythme de vie, ce type de projet vous change-t-il vos habitudes de faire ?
Ah ouais, oui, parce que on est en immersion. Quand je vais travailler en résidence, je prends ma voiture, je quitte ma fille qui a 10 ans, je pars pendant 10 jours, je ne vais pas la revoir. Donc oui, bah ça m'implique énormément dans mon organisation personnelle et professionnelle. Mmh. Et puis, c'est une manière aussi de voyager. Hein. J'ai plein de collègues qui partent faire des travaux documentaires à l'étranger. Moi, j'aime beaucoup travailler à proximité de chez moi, même rester sur le territoire en France, parce que je trouve ça assez compliqué en fait, de déceler un peu de raconter un peu ce qui est banal, finalement. Le quotidien, la banalité du quotidien m'intéresse beaucoup et je le trouve sur le territoire. Donc, quand on me propose de faire une résidence, je suis ravie, moi.
D'accord. Et d'où vient votre passion pour la photographie ?
Alors, je pense que j'avais une dizaine d'années quand j'ai su que je serais photographe, donc j'avais 10 ans. Avant tout, moi je dessinais beaucoup quand j'étais petite parce que je m'ennuyais beaucoup. L'ennui a fait partie de mon éducation artistique. Je m'ennuyais terriblement, on se gardait seul avec mon frère. Et après, j'ai très tôt eu la conscience, que mes êtres proches allaient disparaître, hein, mes grands-parents, etc. Et j'avais besoin de conserver tous leurs gestes, leur attitude, la manière dont ils se... Je sais pas, la manière de remettre une écharpe, enfin, etc. Et donc, très jeune, j'ai demandé pour Noël un petit appareil photo. Donc, mon premier appareil photo, c'était un petit appareil photo Kodak. Tu as peut-être connu, Cédric, à disquette ronde. Voilà, ça faisait des petits négatifs comme ça. C'était de très mauvaise qualité. Mais du coup, je les photographiais sous tous les angles. Hein. Ça énervait tout le monde. Et je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos de ma famille, en fait, essentiellement. Et après, j'ai eu un flash très fort. C'était une maman qui photographiait son enfant sur un manège, un carrousel. Et j'ai trouvé cette image formidable, quoi, vraiment très belle, de l'implication de cette femme à essayer. Enfin, je la voyais bouger comme ça. Et j'ai aimé cette image-là. Et je me suis dit, je me verrais bien comme ça, plus grande. Et en fait, ça faisait sens, quoi. Ça, ouais, j'ai toujours pensé que je travaillerais, en tout cas, dans l'image, ça, c'était sûr.
D'accord. Mais au jour d'aujourd'hui, par moment, regrettez-vous de faire ce métier ?
Non, pas du tout.
Jamais ?
Ah non, bah d'abord, je ne saurais pas quoi faire d'autre. Alors, vraiment pas. Souvent, je me suis posé la question parce que c'est un métier aussi très difficile. Mmh. C'est un métier précaire. C'est un métier, quand on a la chance d'avoir du travail, tout va bien. Mais en vrai, on n'en a pas toujours du travail. Et on n'est pas intermittent du spectacle. Donc, quand on n'a pas de travail, on est comme un boulanger. Si on ne fait pas son pain, on n'a pas de sous à la fin du mois. Et c'est un métier vraiment difficile. Il y a beaucoup de concurrence. Malgré tout, c'est un métier de passion. Je pense que si je continue à le faire, c'est que j'ai encore des histoires à raconter. J'ai encore beaucoup de gens à rencontrer aussi. Je suis passionnée des récits. Et moi, je pense à ça tout le temps. C'est-à-dire quand je me brosse les dents, quand je vais me coucher. Vraiment, en permanence, je réfléchis aux futurs projets que j'ai envie de faire. Ça, vraiment, je ne me vois pas vivre autrement. Ce n'est pas possible. Enfin, peut-être qu'un jour, je sais pas. C'est vraiment qu'on me coupe les deux mains et pour faire autre chose.
D'accord. Pour finir, sur quel projet travaillez-vous actuellement ?
Je travaille sur un projet très intéressant où je suis avec une compagnie de théâtre qui m'a invitée à réfléchir, à faire une proposition sur la cabine téléphonique. Alors, vous êtes trop jeune pour avoir connu, je pense, mais voilà, nous, il n'y a encore pas si longtemps, il y avait des cabines téléphoniques avant d'avoir le portable dans les rues de France. On avait des cabines téléphoniques dans lesquelles on allait passer nos coups de fil, dans lesquelles on allait parce qu'on avait un rendez-vous téléphonique et on s'enfermait dans cette cabine téléphonique pour passer nos coups de fil. Et donc, cette pièce, cette compagnie de théâtre a écrit une pièce de théâtre autour de la cabine téléphonique, me propose de faire une réflexion autour de celle-ci, et j'ai à disposition un camion avec il y a le réalisateur et un technicien qui est là pour m'aider à monter la cabine téléphonique que je mets en place dans des scènes de vie ordinaire. Et en fait, je questionne la place de nos téléphone portable, parce qu'on les appelle nos écrans. Et par définition, un écran, c'est quelque chose qui sépare. Donc là où on pense communiquer avec les autres, eh bien moi, je pense plutôt que ça nous sépare les uns des autres. Et donc, je remets la cabine téléphonique dans des situations telles que une cabine téléphonique dans une voiture ou sur une voiture, dans une cuisine, dans des lieux qui n'ont pas sens, en fait, mais qui questionnent la place de nos téléphones portables aujourd'hui dans notre quotidien et dans notre société.
D'accord, merci beaucoup pour vos réponses.
Merci pour tes questions.
Nous passons maintenant à la découverte d'un autre artiste photographe rencontré par Loris Shamseddine Nolaneshoun. Salut Loris, tu es venu nous parler de Cédric Martini que tu as interviewé le 2 décembre dernier à la Maison de la Culture. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce photographe ?
Bonjour. Alors, Cédric Martini nous a très bien accueillis à la Maison de la Culture. Il était très gentil, accueillant et il répondait très bien à nos questions.
Qu'est-ce que tu as apporté du travail de Cédric Martini ?
Le travail de Cédric Martini était très vivant. Il était dans des établissements scolaires, plus précisément dans des salles de classe où il prenait en photo des élèves avec leurs profs.
Que retiens-tu de cette rencontre ?
Je retiens qu'avec ses photos, on voit directement ce qu'il veut montrer dans ses photos, car il y avait une genre de lumière qui reliait sur le sujet. Et donc, ça nous a interpellés avec mon groupe, du coup. Ça nous a interpellés et du coup, on a su directement ce qu'il voulait nous faire transmettre.
Merci pour tes réponses. On écoute tout de suite ton reportage.
Merci, au revoir.
Bonjour, Cédric Martini. Vous êtes photographe. Vous participez à l'exposition Lycéen Teki à la Maison de la Culture d'Amiens. Pourriez-vous nous dire en quoi consiste cette exposition ?
Cette exposition présente plusieurs séries qui ont été réalisées par des photographes dans un cadre scolaire, dans un milieu scolaire. Et donc chaque photographe a décidé de photographier les élèves, de les représenter d'une façon différente. Donc il y a autant de séries que de photographes et de manières de représenter qu'est-ce que c'est qu'être un élève, un adolescent. Donc c'est à la fois sur la jeunesse, sur le milieu scolaire. Donc ça aborde plusieurs questions.
D'accord. Avec combien de lycéens avez-vous travaillé ?
Alors, j'ai dû travailler dans le cadre de mes photographies avec une soixantaine de lycéens et puis dans le cadre des ateliers avec une vingtaine.
D'accord. Combien de temps la résidence a-t-elle duré ?
Donc la résidence a duré un an et c'était sur plusieurs semaines pendant un an.
D'accord. En quoi le thème vous a inspiré ?
Donc le thème m'a inspiré parce que je m'intéresse au monde du travail et à comment représenter le travail à travers le geste professionnel. Donc moi ce qui m'intéresse dans la photo c'est d'isoler les personnes, de montrer l'aspect esthétique du travail en fait, à travers les mouvements et les gestes. Et donc comme là c'était dans un lycée professionnel, bah, j'ai pu photographier différents métiers que les élèves apprenaient. Et donc c'était un nouveau cadre et donc il y avait plusieurs corps de métier, les cuisines, l'électricité, la plomberie, etc.
Ok.
Pourquoi ?
Non. Ah !
Essaye de rebondir.
Ok.
Et comment rebondir aussi ?
Bah justement, par curiosité. Pourquoi le thème des métiers ?
Ah oui. Pourquoi surtout les métiers, surtout ? Parce qu'on voit dans beaucoup de vos photos, il y a surtout les métiers. De tout ce qu'il y a dans un établissement scolaire.
Ben moi, je m'intéresse au travail en général parce que c'est pas très représenté dans l'art, en fait. Et donc, au cinéma, tu l'as un petit peu. Dans l'art contemporain, quasiment pas. Et moi, je suis photographe et la photographie est un peu mieux armée pour décrire peut-être ce qu'est le travail. Mais moi, j'essaye de l'aborder à travers la question de la posture corporelle, du geste. Et donc de l'expression physique, on va dire. Et ça peut être aussi les émotions d'ailleurs, comment est-ce qu'elles s'expriment, etc. Et donc j'essaye de réfléchir à comment on peut représenter aujourd'hui le monde du travail, avec toutes les questions qui se posent, parce que tu vois, on a dû t'en parler, il y a beaucoup de difficultés, tu vois, on peut parler de l'emploi, le chômage, la souffrance au travail, les bons gestes et les mauvais gestes, et puis il y a aussi bien faire son travail, tu vois, les beaux gestes, les gestes d'exception. Donc le travail, ça recouvre plein de choses différentes. Et moi, j'essaye de l'aborder avec un axe, qui est celui du corps au travail, quoi. Ce qu'on appelle le travailler plutôt que le travail.
Depuis combien de temps êtes-vous photographe ?
Ah voilà, je suis photographe depuis 20 ans. Oui, c'est ça, 20 ans.
Ok. Qui vous a inspiré pour faire ce métier ?
Ah, beaucoup de photographes. Moi, j'aime beaucoup la photographie documentaire. Alors, c'est des grands noms de l'histoire de la photographie, comme J.N. Haget, Walker Evans, Lee Friedlander, Robert Adams. Tu vois, beaucoup de photographes, beaucoup américains d'ailleurs. Mais j'aime aussi toute la photographie, j'aime aussi la photo de reportage, la photo de commande aussi, tu vois, ce qu'on appelle la photo vernaculaire, la photo d'usage. Voilà, donc je m'intéresse à toutes les photographies. Ce qui m'a donné le plus envie, c'est les photographes qui décrivaient le monde tel qu'ils le voyaient, tu vois, qui étaient devant eux, et qui essaient de le faire le plus simplement possible, et sans manipulation, sans transformation forcément très spectaculaire. Je crois que la photographie, elle est intéressante quand elle peut décrire simplement les choses telles qu'elles sont. Voilà.
Est-ce que je peux dire pourquoi ? Ah bah tu peux demander tout ce que tu veux.
Et pourquoi que la photo et pas d'autres ?
Alors depuis pas longtemps, je fais aussi de la vidéo. Je le fais en amateur hein, parce que j'ai pas fait de formation pour ça, mais j'aime bien prendre le support vidéo et travailler sur la durée, sur le temps. Ça donne une durée au geste, tu vois. Ça permet de créer des rapports d'image un peu rapides, mais toujours, je travaille toujours sur les mêmes questions, sur le geste de travail, mais avec la vidéo. Donc c'est un autre support que je fais et j'essaye de faire qu'il soit en interaction. C'est-à-dire qu'ils dialoguent tous les deux en même temps, quoi. Que la vidéo permette de voir la photo différemment, la photo voir la vidéo différemment. Donc la photo, alors je fais aussi des dessins, je fais des petits croquis mais qui sont très moches et pas du tout à visée artistique, mais j'aime beaucoup faire ça, j'aime bien dessiner et ça aussi c'est un autre support. J'écris aussi à côté, tu vois, donc c'est vrai que la photographie c'est mon médium principal mais qui m'a ouvert sur d'autres médiums.
Êtes-vous le seul photographe dans votre famille ?
Ah oui, dans ma famille, ouais.
Ah, dommage.
Peut-être pas le dernier, on verra.
Bah merci.
Une dernière question. Ah, demande-lui ce que ça lui a apporté cette résidence.
Que vous a apporté cette résidence ?
Ben, cette résidence, tu sais, c'est à chaque fois une résidence, c'est le résultat de tout le travail passé, donc d'autres résidences qui ont été faites avant, et puis ensuite c'est le prémisse de travaux à venir. En fait, une bonne résidence, c'est quand on crée quelque chose de nouveau, d'inédit, et qu'on apprend des nouvelles choses. En fait, est-ce que disent pas les photographes ou les artistes, peut-être, c'est qu'ils apprennent autant des élèves que les élèves apprennent d'eux, tu vois. On est tous là, d'ailleurs, pour expérimenter un moment de vie, pour essayer des nouvelles choses. Et puis, ce qu'on recherche, c'est la surprise, quoi. Donc, je pense que chaque résidence recèle son lot de surprises. Et puis après, ça permet de poursuivre son travail, quoi. C'est des étapes de travail, en fait.
Ok. Merci de votre compréhension.
Et de rien, avec plaisir.
Nous avons une invitée de marque sur notre plateau. Il s'agit de Christine Bertin, professeure d'art plastique qui enseigne en classe préparatoire au lycée Louis Thuillier. Bienvenue sur le plateau de l'art vu par les 5e mai.
Merci beaucoup, merci de votre accueil, je suis flattée.
Vous avez récemment accueilli l'artiste Nicolas Tourte en résidence dans votre établissement. Je cède la parole à Lucas qui a quelques questions à vous poser.
Bonjour Madame Bertin, pouvez-vous m'expliquer ce qu'est une résidence d'artiste ?
Bonjour. Alors, la résidence d'artiste, pour nous, ça a été la chance d'accueillir pendant 5 jours, dans notre classe préparatoire au lycée Thuillier, un artiste de renom, donc Nicolas Tourte. Donc, c'était bénéficier de son expertise, d'avoir la chance de travailler en collaboration avec lui pour qu'il nous ouvre à des pratiques de sculpture contemporaine. Donc, l'objectif, c'était donc de mener un travail de collaboration entre un groupe d'étudiants d'une vingtaine de personnes et cet artiste qui était à notre disposition pour nous amener à réfléchir et à créer.
Quel est l'intérêt qu'elle se déroule dans un établissement scolaire ?
Alors là, le gros avantage, c'était que on l'avait avec nous, on va dire, 5 jours complets, du matin au soir, donc on pouvait adapter nos questions, nos demandes, nos idées en direct. En fait, la communication était fluide, il était avec nous constamment, donc les échanges étaient très riches, très constructifs, et c'était important qu'il puisse être avec nous pour qu'il suive chaque atelier. Il a vraiment été impliqué pour suivre chaque équipe autour de la création d'une œuvre commune.
Comment s'est passée la collaboration avec Nicolas Tourte ?
Alors c'est un très bon souvenir pour nous, ça a été vraiment une belle expérience. Il a été à l'écoute de tous, très très bienveillant. Quelquefois, les étudiants doutaient un peu de leur capacité. Et avoir un regard d'un artiste professionnel sur ce qu'eux sont censés pouvoir développer à l'avenir. Donc eux, ils sont en devenir. Hein, et donc, avoir un accompagnement de Nicolas, ça a été une chance, une révélation pour certains. Donc, je dirais que cette expérience a été très positive. Ça a permis un déclic chez certains, une mise en confiance et une révélation de leur personnalité.
En quoi a consisté la résidence ?
Alors, la résidence est partie donc, de l'exposition Le parcours d'art contemporain en 2020. À l'époque, en octobre, nous avions été sollicités par la Maison d'architecture à Amiens pour travailler donc sur l'élaboration, la construction d'une œuvre qui serait présentée là-bas. Donc ce qu'on appelle une œuvre in situ, c'est-à-dire qu'on observait l'espace de la Maison d'architecture, on observait l'espace de présentation, et on construisait une offre en fonction des spécificités de ce lieu. Et donc, cette œuvre a été conçue en collaboration avec tous. Chaque étudiant et l'artiste ont travaillé sur des idées communes pour pouvoir créer ensuite une installation qui serait donc présentée au public. Sauf que, comme tu le sais, il y a eu le Covid en 2020 et donc nous avons reculé la présentation de cette œuvre en novembre 2021 et donc nous sommes très contents puisque nous avons pu mener à bout le projet même s'il y avait un an de décalage. Donc notre objectif c'était donc vraiment de construire une œuvre ensemble avec l'artiste et le groupe de 20 étudiants.
Comment s'est conclue votre collaboration ?
Alors, la conclusion, c'était finalement la présentation au public hein, cette année de cette œuvre. Donc, on est très fiers du résultat, même si nous avons eu des obstacles dans la logistique, dans le contexte un peu spécial du Covid. On a réussi donc à créer du lien, à faire s'envoler nos étudiants vers un parcours un peu singulier, vers des rêves qui, pour eux, étaient au début d'année inaccessibles et qui, aujourd'hui, se sont concrétisés. Donc, je suis très fière et très contente de tout cela.
Qu'est-ce que cette résidence d'artistes vous a apporté à vous et à vos étudiants ?
Alors, que du bonheur. ça a été une source de remise en question, mais positive. Ça nous a apporté un regard d'expert sur ce que l'on pouvait imaginer en classe, dans une classe préparatoire qui venait en plus d'ouvrir. Hein. Nous sommes ouverts que depuis 2 ans. Ça a été, je dirais, quelque chose de très constructif, du point de vue artistique, certes, mais aussi humain. On a dépassé, je pense, les objectifs qui étaient donc la construction d'une œuvre. Ça a été, au-delà de ça, une rencontre du point de vue, je dirais humain. Ça a été une source d'enrichissement.
Y a-t-il une nouvelle résidence d'artistes de prévue ? Si oui, avec quel artiste ?
Alors, on vient de finir une autre résidence cette année. Donc, les étudiants ont pu rencontrer un autre artiste qui s'appelle Clément Fourmand. Nous avons pu aussi l'accueillir pendant 5 jours pour, cette fois-ci, construire des sculptures uniquement en papier. L'objectif, c'était de travailler le thème du corps et de questionner une présence sculpturale dans un espace qui n'était pas dédié à l'art, qui était donc le lycée. Et ça s'est aussi très très bien passé. C'était différent, mais c'était encore une chance pour nous d'avoir un regard d'expert sur des parcours qui sont encore remplis de doutes et d'interrogations.
Merci d'avoir répondu à mes questions.
Merci à vous, c'était avec grand plaisir.
Merci à vous d'être venu sur notre plateau afin de nous expliquer en quoi consiste une résidence artistique. Pendant ce temps, Alexandra Epé nous a rejoints sur le plateau. C'est une habituée des lieux, on peut notamment découvrir le mobilier qu'elle a conçu pour la structure dès l'entrée du Safran. Je vous laisse entre les mains d'Elia qui souhaite vous interviewer.
Bonjour Alexandra Epé.
Bonjour Elia.
Vous vous décrivez comme scénographe et designer, mais pouvez-vous m'expliquer plus en détail en quoi consiste votre métier ?
Ah, elle dure longtemps l'émission ? Parce que... Alors, en quoi consiste mon métier ? Le scénographe, c'est une personne qui, à la base, travaille plutôt au théâtre, donc travaille à créer des espaces qui sont en lien avec une histoire. Donc, comme quand tu vois une pièce de théâtre, voilà, c'est pas pour rien qu'il y a une maison ou une pente, tout ça. Voilà, ça, c'est mon travail à la base, mais c'est un travail qui, du coup, peut s'adapter à d'autres types d'espaces que la scène de théâtre. notamment par exemple ici au Safran, où le fait de repenser les circulations, les couleurs des lieux, les espaces où on va pouvoir faire telle ou telle chose, c'est aussi un travail de scénographie. Et le travail du designer, c'est aussi un travail de dessin, mais moi, ce travail de design que je fais, c'est aussi un travail de design d'objet. Donc ça veut dire que je choisis de dessiner par exemple une lampe et je choisis de la dessiner de telle ou telle façon, de lui permettre d'être posée, d'être suspendue, de réfléchir à la façon dont quelqu'un va l'utiliser. Le design, il est partout dans tous les objets du quotidien. Voilà, ça c'est aussi mon travail.
Okay. Comment vous est venue l'idée de créer du mobilier pour ce lieu ?
L'idée, c'était surtout à la base une proposition. Parce qu'il y avait le Safran, il n'a pas été refait depuis longtemps, depuis plusieurs années. Ouais. Et en fait, l'idée, c'était de le rendre plus accueillant. Donc, du coup, avec la DRAC, c'est la Direction Régionale des Affaires Culturelles, le Safran, la Métropole, voilà, on a réfléchi à un projet pour que ce lieu devienne plus accueillant pour tout le monde. Et du coup, ça passe aussi par le mobilier. Ça passe par savoir comment on s'assied. Est-ce que le mobilier, il est fixe ou est-ce qu'on peut le bouger ? Puisqu'au Safran, il se passe beaucoup de choses différentes tout le temps. Donc, on avait besoin aussi de mobilier qui puisse aller un peu partout et servir à des choses différentes.
Okay. Qu'est-ce que ça implique finalement de créer du mobilier pour un lieu culturel ?
Qu'est-ce que ça implique ?
Oui.
Ça implique de bien réfléchir. Ça implique de demander les choses aux personnes qui les utilisent, de demander comment ils ont envie de les utiliser, d'imaginer aussi des choses qui peuvent, voilà, par exemple, il y a la grande table ronde sur laquelle là, certains d'entre vous sont assis, qui peut devenir une scène, qui peut devenir plein de choses. L'idée, c'est de créer aussi des objets qui deviennent des potentiels. Ça veut dire que c'est là, et peut-être que quelqu'un qui fait du théâtre aura envie de monter dessus, peut-être que quelqu'un qui fait une expo aura envie de poser des choses pour le montrer. Donc, c'est aussi, ça implique voilà, de réfléchir à ce que les objets peuvent permettre de faire, et comment ils s'intègrent dans le lieu par les matériaux ou ces choses-là.
D'accord. Y a-t-il une différence entre créer du mobilier pour une entreprise et pour un lieu culturel ?
Le process de réflexion, il est à peu près le même, la façon dont le chemin qu'on fait pour trouver les idées, sauf que, en fait, comme c'est très important de savoir pour qui on fait des objets, ça veut dire que le moment où on va réfléchir à pourquoi on le fait et comment on le fait, bah, il va changer par rapport à la personne qu'on a en face de soi. Après, il y a aussi des choses quelque chose de très important pour les espaces culturels, c'est la sécurité. Parce que quand un objet est beaucoup manipulé par du public, il faut qu'il soit solide et très sécurisé et il répond à certaines normes. Donc ça, c'est une contrainte. On ne peut pas juste faire un dessin et hop, on fabrique et puis c'est fini. Il faut penser à quel matériau, quel bois on utilise, est-ce qu'il a le droit d'être utilisé dans l'espace culturel, etc., etc. Donc c'est ça qui change peut-être un peu si on travaille avec un particulier ou avec...
Est-ce que vous créez seulement du mobilier ou considérez-vous vos créations comme des œuvres d'art ?
Ah ! Ouais, super question. C'est une question qui est difficile parce que la limite entre le design, l'art, tout ça, c'est des limites qui peuvent être un peu floues selon le travail qu'on fait. Considère pas forcément que le mobilier que je vais faire, si par exemple ici on va faire des assises et des bancs, peut-être pas comme une œuvre d'art, plutôt comme un objet qui permet de faire des choses. Après, le travail que j'ai fait pour le parcours d'art contemporain, ça c'est plutôt un travail artistique au sens propre.
Oui. En quoi un lieu peut-il influencer vos créations ?
En quoi un lieu influence mes créations ? Oui. Bah, 100%, parce que c'est vraiment mon idée, c'est de travailler, comme on dit, in situ. Je ne sais pas si vous avez appris ce mot-là, mais on pourra en discuter. Ça veut dire vraiment de travailler sur le lieu dans lequel on est. Parce que je pourrais dire, moi, on m'a dit de faire des bancs, et puis je ne viens pas, je fais mes bancs dans mon bureau, puis j'arrive avec mes bancs. Okay. Et l'idée, ce n'est pas ça, c'est de se dire, voilà, comment le lieu, il fonctionne, qui vient dans ce lieu, est-ce qu'on a besoin de bancs qui sont hauts, qui sont bas. Et donc, en fait, le lieu, il... C'est lui qui donne la feuille de route pour fabriquer des objets. En fait.
D'accord. Où puisez-vous l'inspiration pour créer votre mobilier ?
Bah, dans les gens, dans les lieux, comme je viens de t'expliquer, puis aussi dans le rapport avec les personnes qui fréquentent un lieu. Donc beaucoup de discussions. C'est beaucoup le fait de parler, de savoir les envies. Aussi, j'ai passé beaucoup de temps, par exemple, ici au Safran, à rien faire. à regarder comment les gens se servaient du lieu pour avoir des idées. Donc après, je lis beaucoup, je vois des expositions, je vois des films, et finalement, l'inspiration, elle est partout, tout le temps.
Quelles sont les raisons qui vous ont amené à vous lancer dans le design ?
Alors, du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours dessiné à votre âge, un peu avant aussi. Je faisais du dessin, je faisais du théâtre. J'ai fait beaucoup de choses qui me mettaient dans la création. J'ai fait même l'atelier architecture au collège. Donc finalement, c'est comme une façon d'être depuis longtemps, de dessiner des choses qui sont dans ma tête pour les réaliser en fait.
D'accord. Et pour finir, comment devient-on designer ?
Comment on fait pour devenir designer ? Bah déjà, on fait. Donc, il faut déjà dessiner et avoir envie de créer des choses. Et après, il y a des écoles qui peuvent permettre d'approfondir tout ça. Donc, moi, j'ai fait les arts décoratifs à Paris, l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Et on apprend pendant 5 ans à dessiner, à créer, à savoir comment on passe d'un dessin à un objet ou à un espace. Voilà, on apprend ça pendant quelques années pour qu'après, ça devienne un peu plus facile.
D'accord. Merci d'avoir répondu à mes questions.
Merci à toi.
Durant ce projet, les élèves se sont rendus au Fonds régional d'art contemporain. Ils y ont rencontré l'artiste Gabriel Folly et la guide Laure Marcoux. Ryan, c'est toi qui as eu la chance d'interviewer Gabriel Folly. Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre ?
Oui, bonjour. C'est un artiste plasticien qui, dans le cadre du parcours d'art contemporain, qui nous a montré quelques-unes de ses œuvres au FRAC d'Amiens.
Qu'as-tu pensé de ses œuvres ?
Nous avons pu découvrir son travail et l'interroger sur sa manière de travailler. Pourquoi le noir et le blanc sont-elles les couleurs principales de ses dessins ? Comment fait-il ses collages ? Où trouve-t-il cette inspiration ? Autant de questions auxquelles il a pris le temps de répondre avec sympathie et enthousiasme.
On écoute sans tarder votre reportage.
Bonjour Monsieur Gabriel Folly, vous êtes artiste plasticien diplômé d'un Master Art Théorie et Pratique Artistique, option Art Plastique, obtenu en 2015 à l'Unité de Formation et de Recherche des Arts d'Amiens. Quel a été votre premier contact avec l'art ?
Bonjour à toi. Alors mon premier contact, je pense que c'était... je dirais que ça remonte au lycée, enfin ça remonte certainement avant, mais en tout cas les souvenirs que j'ai c'est au lycée, notamment au Centre Pompidou quand j'étais en seconde.
Okay. Comment vous êtes venu l'envie d'en faire votre métier ?
Bah, ça s'est décidé un petit peu sur le tard, puisque j'ai terminé mes études en 2015, donc en master à l'UFR des Arts. Et en fait, j'ai commencé à exposer en début de master, et les expériences d'exposition ont fait que j'ai décidé d'envisager une carrière artistique justement avec cette expérience des vernissages, des rencontres et d'un début de pratique artistique. Et donc ça s'est décidé comme ça au fur et à mesure, et réellement en 2015.
Okay. À travers l'exposition qui se déroule en ce moment au FRAC, qu'avez-vous cherché à exprimer ?
Alors au FRAC, en fait, c'est vraiment un projet sur les 4 à Amiens. Donc les 4 projets sont assez différents. Celui au FRAC, c'est vraiment une réflexion sur comment accrocher mon travail, comment le rendre davantage vivant, comment créer aussi une proximité entre l'œuvre et le spectateur, par exemple avec l'œuvre qui est encadrée en bas, en fait, qui est que le spectateur peut manipuler. Et également une autre œuvre avec une partie qui est pliée, et donc le spectateur peut regarder aussi le verso du dessin. Et en fait, c'est vraiment un projet où il y a... Enfin, c'est aussi pour montrer l'évolution en fait de ma pratique de 2019 à aujourd'hui, c'est-à-dire fin 2019 avec des œuvres qui ont été faites pour le dossier de candidature, et fin 2021, quelques semaines avant le parcours d'art contemporain. Donc il y a vraiment une évolution avec des œuvres de 2019, 2020 et 2021. Donc c'était aussi montrer l'évolution et les différentes étapes d'un travail artistique.
Parallèlement à cette expo, vous êtes également représenté à la Maison de la Culture. Pouvez-vous nous éclairer sur le choix du titre « Autant vécu, fan les fleurs » ?
Eh bien en fait, j'ai demandé à une critique d'art parisienne que je connais plutôt bien et qui connaît aussi très très bien mon travail, avec qui j'ai beaucoup discuté pendant le premier confinement, sur Messenger par exemple. et je lui ai demandé en fait d'écrire un texte pour mon exposition à la MCA. Et en fait, ce titre est tiré du texte. C'est la fin du texte finalement. Et ça résumait plutôt bien cet état d'esprit 2020 et puis aussi cette arrivée du végétal dans mon travail et en même temps un travail sur l'apparition, la disparition, sur un monde en perpétuel changement. Et voilà, en fait, c'est assez vague, assez vaste aussi l'interprétation qu'on peut avoir de ce titre. Et voilà, c'est aussi assez poétique et le végétal qu'il y a dans mon travail crée aussi, apporte une certaine légèreté, une certaine poésie à mon travail qui parfois peut traiter de sujets plus durs.
Pourquoi vos dessins sont toujours en noir et blanc ?
Eh bien, mes dessins sont souvent, je dirais, en noir et blanc. En fait, ça a vraiment commencé au noir et blanc de 2015, donc début de carrière, jusqu'à 2018-19, où c'était essentiellement noir et blanc, fusain, parce que j'utilisais beaucoup des images, en fait, en noir et blanc, des photographies, puisque c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est toujours un travail d'après des images que je récupère ou que je fais avec un appareil. Donc c'est un travail d'historien, entre guillemets, bien sûr, mais un travail un peu d'archiviste, un travail d'investigation, de fouiller dans les archives, dans l'histoire, à partir de ces images-là qui sont souvent en noir et blanc ou que je mets en noir et blanc, puisque ça me rappelle aussi la texture du fusain, c'est pour ça que le noir et blanc et les contrastes que ça peut créer m'intéressent beaucoup. Et ensuite, la couleur est arrivée progressivement à partir de 2019. Je pense que c'était un besoin, en fait, d'amener aussi la couleur et d'amener... aussi par la suite différentes techniques qui se mélangent sur un même support. Donc là encore, ça fait aussi partie d'un travail qui évolue en fonction des années. Et voilà, tout est possible en soi.
Pourquoi dans vos dessins, la vie d'Amiens est toujours représentée dans vos dessins ?
Eh bien, en fait, là, c'était surtout pour le parcours d'art contemporain, puisque l'appel à projet était puisque l'appel à projet était art territoire créé et habité. Et je me suis plongé en réalité dans l'histoire d'Amiens, le Amiens d'avant, le Amiens actuel, ses habitants, sa culture, son patrimoine, son architecture, et également les souvenirs que j'en ai depuis mon arrivée en 2008 dans cette ville. Donc en fait, c'est tout un travail effectivement sur Amiens, et parfois qui va aussi plus loin, qui peut aussi parler des Hauts-de-France, voire même au-delà, puisque c'est également un travail qui crée des parallèles entre le territoire amiénois et aussi des similitudes qu'il peut y avoir justement entre des territoires des Hauts-de-France. Et là, je pense notamment à l'exposition à l'imprimerie qui montre des dessins de Lille, de l'Aisne et d'Amiens. Et là, en l'occurrence, au FRAC, on peut voir donc le quartier Saint-Leu, on peut voir le quartier de la Haute-Oie, on peut voir le Beffroi et d'autres paysages que tout le monde connaît, ou en tout cas qui ont une importance pour moi, puisque la Haute-Oie, j'y vais régulièrement. Saint-Leu, c'est aussi forcément mes années d'études. Le Beffroi, parce que mon atelier est à proximité. Et puis c'est aussi le Beffroi et la cathédrale, des lieux que je fréquente souvent, ou en tout cas que la plupart des Amiénois connaissent. Et puis c'est aussi l'histoire d'ouvriers, par exemple Goudière, donc c'est aussi parler de... là on est plutôt dans un aspect sociopolitique, économique, donc c'est parler des habitants, c'est parler aussi de mon vécu, et donc là ça crée un travail en fait qui assemble, une vision personnelle et en même temps quelque chose de plus collectif, donc c'est-à-dire mon vécu et en même temps celui des autres Amiénois, donc la petite histoire, la grande histoire. Voilà, donc il y a une confrontation entre ce que moi je vois d'Amiens et en même temps de ce que toi tu peux aussi voir en fonction de ta culture, de ton vécu, de tes souvenirs.
Sur quoi vous travaillez en ce moment ?
Alors en ce moment, je prépare une autre exposition à Paris, là, à la Galerie La Ferronnerie, qui commence le 15 décembre jusqu'au 22 janvier. Et puis je travaille aussi pas mal dans mon atelier pour faire évoluer ma pratique, essayer de nouvelles techniques et également d'autres choses qui vont arriver en 2022, mais ça on en parlera prochainement.
Merci.
Merci à toi pour ces questions pertinentes.
Merci.
À cette occasion, nous avons également rencontré Laure Marco qui travaille au FRAC. Elle nous a présenté ce lieu chargé d'art. On retrouve tout de suite Elia qui va nous parler de Laure Marco.
Le 7 décembre 2021, nous avons fait la connaissance de Laure Marco, médiatrice culturelle au FRAC d'Amiens. Nous avons pris le temps de l'interroger sur son métier et ainsi de découvrir la richesse et la variété de sa fonction.
On vous laisse avec le reportage.
Bonjour Laure, pouvez-vous nous dire quel est votre rôle au sein du FRAC, s'il vous plaît ?
Bonjour, alors du coup je suis chargée des publics et de la médiation. Mon travail c'est très très large, ça va de présenter les expositions à des classes, à tous les publics, à faire des projets et d'inventer des nouvelles choses avec les artistes pour que toujours ils rencontrent les publics, c'est toujours ça mon travail. Et ça peut être aussi d'inventer des manières de faire de la médiation. Donc la médiation c'est faire le lien entre les œuvres, les artistes et les visiteurs.
Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'une œuvre d'art, s'il vous plaît ?
Alors, c'est une grande question. Une œuvre d'art, c'est normalement quelque chose de fini, un objet, un concept aussi. Mais en fait, là, l'exposition du parcours d'art contemporain, justement, ce qu'on présente, ce ne sont pas des œuvres d'art. Ce sont des essais, des croquis, des projets, des ratés, et que les artistes ont eu la gentillesse de nous laisser montrer.
Justement, comment fait-on pour déterminer que c'est de l'art ?
Alors ça c'est une question, je pense que tout le monde aura une réponse différente. Pour moi, tout le monde peut faire de l'art et justement si c'est quelque chose qui va exprimer un besoin, qui va répondre à une attente, qui va être aussi quelque chose qui va soulager les personnes ou un message qu'on veut délivrer, pour moi ça peut faire œuvre d'art. Après le FRAC, on ne peut pas bien sûr avoir toutes les propositions de tout le monde, donc pour être au FRAC, il faut être professionnel et proposer du dessin, parce que l'art ça peut être toutes les manières différentes et nous en fait on ne propose que du dessin au FRAC.
L'art peut-il être toujours beau ?
Alors je préfère quand il ne l'est pas justement. les beautés sont très très subjectives, on dit les goûts et les couleurs, mais c'est encore plus vrai dans l'art. C'est parce que ce qui est beau va nous lasser, alors ce qui est profond, ce qui est même de l'ordre de peut-être de la douleur, va provoquer plus de réactions et va nous accompagner plus longtemps.
Comment devient-on critique d'art ?
Alors je pense qu'il faut déjà avoir vraiment envie de être curieux. Il faut être curieux, il faut beaucoup voyager aussi je pense pour ne pas rester cantonné dans ses a priori et aimer partager, parce que les critiques d'art en fait ils vont partager, ils vont soutenir aussi des artistes et c'est ça en fait qui va faire la richesse de leur métier, c'est qu'ils vont partager en fait toutes leurs découvertes, ce qu'ils aiment pas aussi, mais je pense qu'ils préfèrent partager ce qu'ils aiment en fait.
Qu'est-ce qu'une critique d'art ?
Alors une critique d'art, ça va être quelqu'un qui va avoir un regard un peu précis en fait sur un artiste ou une artiste et qui va tout faire en fait pour justement écrire sur cet artiste, qui va diffuser, qui va donner son avis aussi et qui va permettre de aussi peut-être, enfin, je ne sais pas si les critiques ont beaucoup d'influence, mais qui vont peut-être aussi changer des points de vue sur les artistes.
Quels seraient vos conseils pour pouvoir analyser une œuvre ?
À prendre le temps. Il faut prendre son temps, on ne l'a jamais assez, mais dans une exposition, il faut, même les œuvres qui nous plaisent pas au premier abord, il faut rester devant, il faut regarder, et on va découvrir des choses, on va voir les détails, et on va comprendre au bout d'un moment, même si on ne croyait pas le comprendre au départ, ce que l'artiste a voulu faire. Il faut se faire confiance aussi.
Comment choisissez-vous les œuvres que vous présentez ?
Ça dépend des projets qu'il y a avec la ville d'Amiens. Par exemple, là, c'est un projet qu'on fait avec la ville d'Amiens. Ça dépend des artistes qu'on veut soutenir dans l'année. Et ça dépend aussi de... Comment dire ? Des sujets qu'on veut aborder. Donc, il y a les partenariats, il y a les sujets, par exemple la prochaine exposition c'est sur autour des plantes sauvages et celle d'après c'est une exposition qu'il y a à Paris qui s'appelle le Salon du Dessin qui va se produire aussi ici au FRAC.
Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le FRAC, s'il vous plaît ?
Alors le FRAC c'est le Fonds Régional d'Art Contemporain. Les FRAC ça existe dans toutes les régions de France et on a les mêmes missions, c'est de collectionner des œuvres d'artistes qui viennent du monde entier et les diffuser sur notre territoire, c'est-à-dire les montrer et de soutenir les artistes.
Travaillez-vous juste au FRAC ?
Alors moi, je travaille uniquement pour le FRAC, mais par contre, le FRAC s'invite un petit peu partout. On travaille avec la Maison de la Culture, on travaille avec le Safran sur Amiens, et puis on va travailler sur plein d'autres endroits, jusqu'à Château-Thierry dans Picardie, jusqu'à Saint-Omer qui est à côté de Lille. Donc moi, je ne travaille que pour le FRAC, mais on va partout.
Ok, merci.
Pour conclure en beauté, j'accueille Isabelle E, enseignante d'art plastique au collège. Alors, comment s'est déroulé le projet ?
Bonjour, donc le projet s'est très très bien déroulé. Les élèves ont été remarquables, ils étaient pleins de motivation. Je trouve qu'ils ont vraiment dépassé leurs limites. Leur travail avec les artistes était extrêmement pertinent. Ils ont su montrer leur esprit critique. Ils se sont particulièrement investis du début jusqu'à la fin du projet. Ils ont été très professionnels. Voilà.
Est-ce que vous trouvez que ça a un peu ralenti le programme de cette année ?
Alors, je trouve que ça n'a pas du tout ralenti le programme, puisque tout ce qu'ils ont appris ont permis de les faire progresser à tout niveau. Ils ont développé leur esprit critique. Il y a eu un grand travail sur l'oralité qui a été fait. Ils se sont montrés de plus en plus à l'aise dans les interviews, dans leur travail de préparation. Il y a un gros travail d'écrit, de rédaction qui a été mené. Et ça, ça peut être fait dans un cours de français, mais également dans un projet comme celui-ci. Ça leur permet également d'anticiper tout ce travail de réflexion sur la critique qu'ils vont avoir l'année prochaine en quatrième. Ça ne pouvait pas être une perte de temps, puisque les rencontres qu'ils ont faites avec les artistes, ça n'aurait jamais eu lieu dans un cours classique. Donc, au contraire, c'était plutôt très enrichissant.
Et pourquoi avez-vous choisi la classe 5e B ?
En fait, cette classe, elle a été choisie par, on va dire, les emplois du temps communs qui ont été mis en œuvre à la rentrée. Donc, pour pouvoir travailler avec ma collègue Sarah Berna, il nous fallait cette fameuse classe commune. Et ça a été la 5e B. Et le hasard a très, très bien fait les choses parce qu'en fait, on en est extrêmement heureux.
Merci pour toutes vos réponses. C'est maintenant que s'achève l'émission La Revue par les 5e B. Je tiens à remercier une fois encore le Safran de nous avoir accueillis, ainsi que nos enseignants d'art plastique, Madame E, et de français, Madame Berna, de nous avoir permis de participer à ce beau projet. Sans oublier Stéphanie Bescon, journaliste à Radio Campus, qui nous a accompagnés tout au long de ce projet. J'espère que cette émission vous aura plu. On se quitte en musique avec Michael Jackson. Bonne journée à vous. Dance.